VOA Afrique, les infos à Washington.
Nous sommes le dimanche 9 juillet 2023 et il est 19h en temps universel. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue à l'écoute de ce bulletin d'information à la présentation Jacques Aristide en direct de la capitale américaine. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, fait état de la levée de la suspension du Mali de ses organes et institutions décidées en janvier 2022 pour sanctionner l'intention de la junte de se maintenir au pouvoir pendant encore 5 ans. Dans un communiqué diffusé aujourd'hui, l'UEMOA indique avoir pris cette décision lors d'une session extraordinaire tenue hier en Guinée-Bissau. Sans davantage de détails, la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a quant à elle levé les sanctions commerciales et financières en juillet de l'année dernière, validant le nouveau calendrier proposé par la junte d'une période de transition allant jusqu'à mars 2024. La Gambie affirme avoir rapatrié près de 300 de ses ressortissants interceptés sur la route de l'exil, avec plus de la moitié échoués en Libye entre le 21 juin et le 4 juillet. Banjul a rapatrié 140 Gambiens interceptés par le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, à bord de 3 bateaux transportant des migrants originaires d'Afrique de l'Ouest, selon le ministère gambien des Affaires étrangères, qui ajoute qu'au total 231 Gambiens bien se trouver dans ces embarcations, mais que certains ont fui avant leur rapatriement. Et puis 156 autres Gambiens ont été évacués le 24 juin de Libye, où ils étaient bloqués. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis près de 14 ans, annonce qu'il sera candidat à un troisième mandat à la présidentielle du 26 août, pour laquelle il est pour l'heure favori face à une opposition très désunie. Le chef de l'État gabonais, 64 ans, a confirmé la nouvelle aujourd'hui lors d'une intervention près de la capitale Libreville devant des partisans qui scandaient « Ali président ». La clôture des candidatures officielles se fera mardi. L'ONU prévient que le Soudan est au bord d'une guerre civile totale, potentiellement déstabilisatrice pour toute la région, au lendemain de la mort d'au moins 22 civils, dont plusieurs femmes, dans un raid de l'armée de l'air sur un quartier résidentiel de la capitale Khartoum. Le bombardement a également fait un grand nombre de blessés. L'armée a assuré dans un communiqué que ses forces aériennes n'avaient visé aucun objectif samedi à Omdurman. De leur côté, les forces de soutien rapide, paramilitaires en guerre contre l'armée depuis le 15 avril, ont dénoncé la perte tragique de plus de 31 vies et de nombreux blessés. L'Afrique du Sud organisera en août le prochain sommet des BRICS où Vladimir Poutine est invité, et ce malgré le mandat d'arrêt émis par la CPI, la Cour pénale internationale, contre le président russe. Nous avançons dans l'organisation du sommet des BRICS et finalisons les discussions sur le format, a déclaré aujourd'hui le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Il ne s'est pas prononcé sur la présence ou non au sommet de son homologue russe Vladimir Poutine, visé depuis mars dernier par un mandat pour le crime de guerre de déportation d'enfants ukrainiens depuis l'invasion de l'Ukraine, des accusations que Moscou a rejetées en bloc. Également dans l'actualité, le président américain s'est envolé aujourd'hui pour le Royaume-Uni avant de se rendre au sommet de l'OTAN à Vilnius en Lituanie. Joe Biden rencontrera le roi Charles III demain au château de Windsor pour la première fois depuis son couronnement. Les deux hommes devraient surtout aborder des questions environnementales. Selon la Maison-Blanche, le président américain doit ensuite s'entretenir avec le premier ministre Rishi Sunak au 10 Downing Street. Pour sa part, le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui bloque l'adhésion de la Suède à l'OTAN, s'entretiendra avec le président américain Joe Biden lors de ce sommet de l'Alliance Atlantique. Les dirigeants ont convenu de se rencontrer en face à face à Vilnius et de discuter en détail des relations bilatérales entre la Turquie et les États-Unis et des questions régionales, indique un communiqué publié par Ankara aujourd'hui. Et puis, les relations entre les États-Unis et la Chine ont désormais des bases plus solides, a déclaré aujourd'hui Janet Yellen, la secrétaire américaine au Trésor, au terme d'un voyage de 4 jours à Pékin visant à apaiser les tensions entre les deux premières puissances mondiales. Et voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité. Jacques Aristide à Washington, je vous retrouve dans 55 minutes. Merci, très bonne soirée à vous, à tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir à tous, chers auditeurs. Bienvenue sur VOA Afrique. Eric Magrakiza avec vous depuis le studio 8 de La Voix de l'Amérique à Washington, D.C. Et je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Dialogue des religions. Michel Claire-Joseph assure la mise en onde. Au cœur de nos programmes ce soir, nous explorons un événement extraordinaire qui a rassemblé près de 2 millions de fidèles venus des quatre coins du monde. Et oui, nous parlons du pèlerinage à la Mecque, un voyage sacré et empreint de dévotion. Chaque année, des millions de musulmans se rendent en pèlerinage à la Mecque, en Arabie Saoudite, répondant à l'appel sacré de l'islam. Nous aurons l'occasion d'entendre les témoignages d'un pèlerin qui partagera ses réflexions, ses joies et ses défis tout le long de ce voyage inoubliable. Et pour mieux comprendre l'importance et les significations de ce pèlerinage, nous aurons également l'opportunité d'entendre un imam qui va nous éclairer sur les enseignements spirituels et les leçons de tolérance que l'on peut tirer de cette expérience unique. Préparez-vous à voyager dans un récit de foi, de tradition et de spiritualité profonde. Je suis en ligne avec Kadiatou Traoré et se trouve à la Mecque. Bonsoir Kadi.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous les auditeurs de Dialogue et Religion. Et bien, comme tu l'as si bien signalé, je suis là comme un pèlerin et avec mes joies et mes défis. Et voilà. Et un grand coucou à tous nos auditeurs. Je pense qu'ils ont l'habitude de m'écouter beaucoup dans l'émission. Et voilà, je suis là aujourd'hui comme pèlerin. Et je suis très très ravi de les retrouver et puis de partager mon expérience de pèlerinage avec tous les musulmans du monde. Merci Eric.
Merci Kadiatou. Je signale que vous êtes ma collègue ici à la Voix de l'Amérique du service Bambara. Je suis également en ligne avec l'imam Omar qui se trouve à Dakar. Imam Omar Dien, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Vous êtes également un habitué de... Oui, je vous entends. Je disais que vous êtes un habitué de ce dialogue des religions. Merci encore une fois d'être là et de partager votre foi et votre expertise.
Effectivement, merci bien à vous aussi, à tous les auditeurs.
Merci, et sans tarder, nous plongeons donc dans cette atmosphère unique de ce pèlerinage. Kadiatou, c'est un plaisir de vous avoir. Les cœurs et les esprits se rejoignent dans une quête spirituelle commune, n'est-ce pas?
Absolument, Eric. Comme tu l'as bien signalé en début de l'émission, près de 2 millions de musulmans qui ont convergé cette année après une fermeture de 3 ans due à la pandémie de la Covid. Et j'avoue qu'il y a eu beaucoup de monde. Jusqu'à présent, les gens sont là, la Mecque est remplie de personnes. Et je viens de quitter la mosquée, le Haram, qu'on disait le Haram, et c'est toujours rempli de monde. Les gens sont là, les pèlerins sont là, ils sont en train de prier Dieu. Les gens se cherchent, on se bouscule. On ne laisse pas la place à l'autre. À tout moment, on ne dort pas. Et nous sommes dans les prières. Tout le monde est dans les prières, entre frères et sœurs musulmans.
Kadiatou, voudriez-vous nous parler des moments de recueillement qui ont marqué cette expérience pour les pèlerins, y compris à vous-même?
La première étape que nous, on a fait, nous avons commencé par Médina, qui est la ville sainte où se trouve la tombe du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et nous avons passé là-bas à peu près une semaine, 8 jours de prière, dans la grande mosquée là-bas où se trouve la dépouille même du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous avons passé les 40 prières qui sont, c'est pas une obligation dans le pèlerinage, mais ça fait, en tout cas, si le musulman arrive à le faire, et ça complète beaucoup le package de ton pèlerinage. Et après les 8 jours passés à Médine, on nous a amené maintenant à la Mecque, là où se trouve la pierre noire, la Kaaba, et nous sommes restés au moins 2 jours, et après nous avons convergé sur la ville de Mina. Et c'est à Mina où les pèlerins vont sous des tentes, et c'est là maintenant le début réel du pèlerinage, et qui prend au moins 5 jours pleins, où il y a l'étape de Mina où les gens prient ensemble, où il y a la lapidation de Satan, et puis il y a la journée sacrée de Arafat qui est célébrée juste l'avant-veille de la fête de la Tabaski. Et donc, à toutes les étapes, j'étais là. Je ne sais pas, c'est émotionnel. Je suis vraiment ravi d'être parmi les pèlerins cette année, Eric. Je n'ai pas regretté d'être venu. C'est pas facile. Quand vous imaginez un peu, près de 2 millions de personnes qui sont ensemble partout, hein, qui viennent d'ailleurs, vous voyez, il y a toutes les couleurs. Tu en vois de toutes les couleurs, avec une chaleur de près de 50, plus de 50 degrés à l'ombre. Ça veut dire que c'est significatif. C'est vraiment significatif pour la religion.
Je comprends très bien, Kadiatou, qu'il s'agit d'un moment émouvant pour vous. On va y revenir. Imam Omardien, le pèlerinage à la Mecque est bien plus qu'un simple rassemblement religieux, c'est un moment de renouveau spirituel et de connexion profonde avec Allah.
C'est un événement d'Allah, oui, effectivement, c'est une repentance, c'est le retour à Dieu. Pour demander pardon à Dieu, c'est laver de ses péchés, devenir un hajj, quelqu'un qui n'a plus de péché comme un bébé qui vient de naître. Donc cette étape de la vie d'un musulman est très importante. Le pèlerinage à la Mecque de cette année, depuis le dimanche 25 juin qu'elle a commencé, donc les gens vont faire la première étape à Médine, ville du prophète, où le prophète a fait tous ses titres et où il a été aussi inhumé dans son mausolée avec ses sahaba, c'est-à-dire ses compagnons. Et puis le pèlerinage à la Mecque en tant que tel depuis le 25 jusqu'au 28, 29 et le 30, c'était les derniers jours du pèlerinage à la Mecque. Et quand on fait cette étape, on devient un hajj, on n'a plus de péché et on s'appelle Allah, comme on dit. Donc, c'est un grand événement aussi de rassemblement de tous les musulmans qui en ont la possibilité, sur l'invitation de Dieu, de s'y rendre et puis accomplir les rituels que ça demande. Même qu'en France, les gens vont rester après pour des problèmes d'avion, de retour, programmés avec tout ce monde qui avait des millions de personnes, peut-être 4 à 5 millions de plus, avec ceux qui sont venus des trois pays voisins. Donc nous, en Afrique noire, nous venons de très loin, pour nous dire, ça demande aussi beaucoup d'argent, près de 6 millions de francs CFA, je ne sais pas comment ça se convertit en euros, pour son hébergement, ses déplacements, le manger et l'hébergement. Donc c'est un événement qui nous est cher au cœur, qui nous est cher financièrement, et que chaque musulman pourra faire une fois dans sa vie, comme nous l'a recommandé la religion dans nos mosquées, dans nos vies du possible.
Imam Omardien, comment décririez-vous le sentiment d'unité et de fraternité qui règne parmi les millions de pèlerins pendant le Hajj?
Tous ceux qui se rendent sont pleinement remplis de joie, d'orgueil et de fierté, parce que c'est en un seul endroit, cet endroit n'existe nulle part ailleurs, et ces moments aussi du pèlerinage ne se font qu'à Mouna, Arafat, Mouzdalifa, et la visite de la ville de Bidin. Mais le pèlerinage en tant que tel, tout musulman a envie de le faire au moins une fois de l'art de sa vie, quand il en a la possibilité ou les moyens. C'est quelque chose qui nous motive pour la suite de notre vie dans la vie active que nous menons en tant que pratiquants de la religion. Et comme Dieu nous a fait partie des 5 piliers de l'islam, la prière à la Mecque une fois. Une prière à la Mecque vaut 10 000 autres prières autres ailleurs que à la Kaaba. Une prière à Médine vaut 5 000, un coefficient de 5 000 fois plus qu'une prière faite à Dakar, Bamako, Soudan ou autre. Donc ça motive les gens. Et donc à Jérusalem aussi, à la mosquée Al-Aqsa, où une seule prière fait 1000 prières, à chaque heure ou à chaque moment de prière, c'est multiplié par ce coefficient, ce qui fait que les musulmans sont très motivés pour le faire. Et le jour de la résurrection, c'est sur les prières et les bonnes œuvres que nous serons jugés ce jour.
Une connexion spirituelle profonde avec les autres croyants. Kadiatou, tout à l'heure, vous avez mentionné la Kaaba qui est le point focal du pèlerinage à la Mecque. Pouvez-vous partager vos sentiments et vos pensées lorsque vous vous êtes tenu devant ce lieu saint?
Éric, même ce matin, à 4 heures du matin, j'étais là en train de faire le tawaf autour de la Kaaba, malgré que la mosquée était remplie. C'était très 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 fastidieux. J'ai pu toucher la pierre noire. Je l'ai embrassée. Et ça, c'est vraiment significatif pour moi en tant que musulmane, parce que je suis venue pour vraiment prier le bon Dieu, me pardonner les péchés et tout. Et si pendant ce moment spirituel, j'arrive à faire et à toucher cette pierre noire, ça veut dire beaucoup de choses pour moi, Eric.
Donc une expérience particulière qui a touché votre cœur.
Absolument, absolument, Eric. Absolument, absolument. Et je dois quitter ici le vendredi. J'ai encore le temps d'aller le faire encore une fois de plus. Et pour prier pour tout le monde, ma famille, mes proches parents et tous les frères et sœurs musulmans et tout le monde. On prie pour tout le monde. Donc c'est les communions de prière et quand tu es là dans le monde, là, les gens qui sont là, tu vois les gens, ils sont en train de pleurer, on crie, Allah Akbar, Allah Akbar, on prie Dieu, on prie. Vraiment, ça donne beaucoup à réfléchir.
Et comment avez-vous vécu le rituel de la lapidation des stèles de Satan à Mina? Quel était, disons, le symbolisme derrière cet acte pour vous?
Ce symbolisme-là, c'est, vous voyez, la réduction des péchés. Tous les péchés que j'avais faits, prier pour le bon Dieu et qui vraiment puis chasser Satan pour de bon de ma vie. Et cette lapidation de jeter de pierre, je ne sais pas si vous vous rappelez la dernière fois où il y avait eu le grand accident, le pont était tombé avec beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup de morts. Ils ont repris et l'Arabie Saoudite, le gouvernement saoudien, a mis beaucoup d'argent pour reprendre et ils ont tout repris, tout est en flambant neuf, bien, bien, bien. Et le monde est là, on rentre dedans sans pour autant que les gens puissent vraiment se bousculer. Et tu viens faire ton rituel tranquillement. Il y a les trois parties, il y a le petit, le moyen, le Satan et puis le grand Satan. Et je pense que je parle sous le couvert de l'imam. L'imam pourrait vraiment bien nous expliquer pourquoi il y a ces trois Satan qui sont là. Parce que quand Dieu avait demandé à Ibrahim de sacrifier son fils Ismaël, Satan est venu en lui pour lui dire que voilà, est-ce que tu vas accepter à tuer ton enfant à cause de ce Dieu-là? Il a pris une pierre et puis il l'a jetée. Il est passé aussi voir la femme d'Ibrahim pour dire que ah, ton mari veut prendre ton fils pour le sacrifier et pour son Dieu. Est-ce que toi tu vas accepter? Il ne faut pas accepter. Elle aussi, elle a pris une. Elle lui a jetée. Et il est allé encore voir Ismaël aussi. Ismaël aussi a jeté une pierre. Donc c'est significatif. Je pense que l'imam pourrait vraiment bien nous expliquer ça dans l'émission et pour la bonne compréhension.
Imam Omardien, vous avez la parole. Voudriez-vous nous donner une explication particulière de l'existence des trois Satans?
Oui, c'est une mission spirituelle certaine. Vous avez dit qu'on célèbre la Tabaski. Mme Ibrahim, alayhissalam, grand-père de religion, le grand-père du prophète Mohamed, alayhissalam, quand il a voulu immoler son mouton, par un rêve qu'il a pris et qui lui est arrivé, et il en a rencontré à sa, son épouse, il a rencontré aussi Adira, son épouse et son fils Ismaïl. Donc la Tabaski qui est devenue une sonne du prophète alayhissalam, et de Mme Ibrahim, son grand-père. Ce qui a fait que quand le Satan est venu pour le dissuader, d'immoler son fils, qu'il avait rêvé que Dieu lui avait ordonné de l'exécuter pour prouver sa croyance, pour prouver son adaptation à Dieu, pour lui rendre grâce, donc il avait accepté d'immoler son fils. Et l'ange est venu enlever l'enfant, lui a mis un bouton qu'il a égorgé, ou bien qu'il a immolé, comme on dit, qu'il a immolé. Et ce qui a fait que nous, musulmans, le lendemain aussi, quand ça s'est passé, sa femme Adira a dit à Mme Ibrahim alayhissalam que son fils, pour un simple rêve, il a égorgé son enfant alors qu'il n'avait pas égorgé, c'est le mouton qu'il avait égorgé. Et le Mme Ibrahim alayhi salam aussi, lui jetait des pierres pour s'en débarrasser. Il lui a jeté cette pierre. C'est pourquoi on fait ce lancement de pierre à la Djamra, qui vient de Djamra. Le troisième jour aussi, comme à la coutumée, Satan est revenu à la chaise pour lui dire, devant lui, son fils à sa femme, alors que son fils, qu'il a inhumé, qu'il a immolé, ou qu'il a tué, ou qu'il a égorgé, il n'en voulait pas la peine, c'est pas Dieu qui l'a dit, c'est quelque chose que juste un rêve. Alors il jetait encore des pierres pour le chasser. Il a fait qu'on fait ces gestes de pèlerinage à la Mecque. Pendant trois jours, on fait ces gestes de prière à la Djamra, où ça recouvre beaucoup de monde. Chaque pèlerin devra jeter sur ce lieu cette pierre qu'il avait ramassée déjà à la fin.
Imam Omardien, comment le pèlerinage à la Mecque influence-t-il la vie quotidienne des croyants après le retour, et quels sont les changements ou les transformations observe-t-on généralement chez les pèlerins à la suite de cette expérience sacrée?
Oui, alors, donc à chaque fois que ça se passe, quand on revient à la maison ou bien qu'on rentre au pays, on devient un Hajj. On s'appelle maintenant Al-Hajj Omar, ou bien Al-Hajj Ousmane, ou Al-Hajj Mamadou, ou Al-Hajj Ibrahima, avec le nom de famille, bien sûr. Donc, un Hajj veut dire quelqu'un qui a été à la Mecque, qui a fait le pèlerinage à la Mecque, qui est devenu un homme sacré, saint, comme on peut l'appeler, et qui a obtenu un grade. Si c'est une femme, elle devient Hajj, c'est la féminité. Hajj, donc pour les femmes, Hajj pour les hommes. Et quand on célèbre le but, l'homme, quand il devient de la Mecque, c'est adoré, il a un autre standing, il vient d'une autre station de la vie, donc on le célèbre, on fait un festin, un bon repas, toute la journée les parents viennent lui rendre visite, donc lui aussi habillé en appartement peut-être un peu saoudien, mais c'est pas exigé, il s'habille proprement, et quand il revient, il y en a qui mettent même des dents en or pour symboliser leur voyage. À la Mecque. Donc, tu deviens une autre personne qui est respectée et tu deviens un chef ou bien un adorable ou bien un honorable comme les rangs des députés et des trucs. Quand tu as quelque chose dans une station, donc tu deviens une autre personne. Donc, ce qui a fait que quand quelqu'un vient de la Mecque, on le célèbre, on le jubile, on lui fait une fête et tout le monde vient le rendre visite pour les prières. De demander des prières d'invitation à l'autre aussi, d'avoir la chance un jour d'y aller. Et il y en a qui vont plusieurs fois, parce qu'ils ont les moyens, c'est tout. Mais l'Islam le dit, une fois dans ta vie, quand tu as les moyens, c'est la possibilité. La possibilité, c'est la santé et tout, ce que ça couvre, financièrement, physiquement, psychologiquement et de manière générale.
Kadiatou, le pèlerinage est souvent considéré comme un moment de purification et de pardon. Avez-vous ressenti un sentiment de rédemption personnelle ou de paix intérieure pendant votre séjour à la Mecque, rapidement?
Tout à fait. Et que, d'autant plus que avant même de venir, de prendre mes bagages pour venir ici, à toi-même, mon collègue, je suis venu te voir pour te dire que je dois aller faire mon pèlerinage et je t'ai demandé pardon avant de partir. Donc, c'est à tous mes proches que j'avais demandé pardon. Et là, maintenant, là où je suis vraiment satisfaite. Et je suis dans une situation de renforcement de ma foi et qui me met dans une position, comment dirais-je, je suis dans une position de spiritualité, j'ai atteint un certain niveau de spiritualité et qui fait, en train de faire de moi et qui me donne une certaine sagesse et d'aimer davantage. Voilà, ma religion, et de la mieux pratiquer, parce que je peux dire que j'ai réellement vu vraiment le bon Dieu et notre prophète à travers ce pèlerinage.
Imam Omar Dien, il nous reste quelques minutes. En quoi le pèlerinage à la Mecque est-il une manifestation concrète de l'unité et de l'égalité des musulmans, indépendamment de leur origine ethnique, de leur statut social ou de leur nationalité? En une minute.
C'est équitable. Hein? Tout le monde le fait dans la mesure du possible. Et quand tu es haïs, ça ne demande pas de nationalité. Une fois que tu accomplis le rituel de la pèlerinage exige, tu deviens haïs, tu es baptisé haïs. Que tu sois indonésien, tchadien, européen ou américain, tu deviens un haïs, c'est-à-dire quelqu'un qui a effectué les étapes de pèlerinage à la Mecque. Donc qui est respectable et respecté. À partir de cela, maintenant, quand il y aura un dieu de ce grade, tu n'as plus le droit à l'erreur, tu n'as plus le conseil de l'alcool, tu n'as plus le droit de conseiller une femme qui n'est pas ton épouse, bien que la religion l'interdit, tu ne dois pas vivre dans la déterre. Tu dois être une personne respectueuse et respectée. Et ça, c'est toi qui l'as cultivé et conforme que tu es formé envers ce nouveau comportement et cette nouvelle dame.
Kadiatou, je vais finir avec vous. Pouvez-vous partager une prière spéciale que vous avez faite à la Mecque? Disons une prière qui était profondément significative pour vous ou qui a répondu à vos aspirations les plus profondes. Une minute.
Que la paix revienne dans le monde, entre les hommes, et qu'il y ait moins de maladies et qu'il y ait une grande entente entre nous tous. Nous avons prié et pour les pays, nous avons prié pour les musulmans, nous avons prié pour les non-musulmans. Et c'est tous les jours, même aujourd'hui, à 4h du matin, je serai encore à la mosquée, je vais reprendre. Si je ne fais pas ça, ça veut dire que ce que je suis en train de faire, elle n'est pas complète. Donc je dois prier pour tout le monde. Et j'ai prié pour vous tous. J'ai prié pour mes collègues à Voix de l'Amérique, pour l'entente, hein, pour la cohésion et beaucoup d'autres choses. Voilà. Et c'est un renforcement de ma foi. Et là, je me sens, juste après, là, je suis devenue une autre personne. Je suis très légère. Il n'y a plus de lourdeur sur mon cœur. Je me sens bien. Vraiment, Eric.
Merci, Kadiatou, pour votre prière à tous les collègues. Merci. C'est la fin de cette édition de Dialogue des religions qui vous immergeait dans une aventure spirituelle extraordinaire à la découverte du pèlerinage à la Mecque. Nous avons suivi notre collègue Kadiatou, qui est pèlerin, qui a partagé ses expériences émotionnelles et ses réflexions spirituelles. Cette émission a mis l'accent sur les moments clés et les enseignements précieux que vous avez acquis tout au long de votre expérience à la Mecque. Merci, Imam Omar Dien, pour votre temps et votre contribution dans cette émission. Merci à Kadiatou Traoré. Merci à Michel Joseph qui a assuré la mise en onde. Michel Claire Joseph, Eric Manila qui a été avec vous. À la prochaine.